Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui s'inscrit dans la série de messages mensuels de notre thème de cette année. Est-ce que quelqu'un se souvient du thème de l'année ? Vous êtes vos disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. 20/20, bravo. Jean chapitre 13, évangile de Jean, chapitre 13, le verset 35, mais on peut lire le verset précédent, 34-35. C'est Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples, Jean chapitre 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, effectivement, qui est notre thème de l'année. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tous, en vous observant, doivent se dire: ah, ceux-là, c'est bien des disciples de Jésus. C'est un amour qui doit se voir. Ah oui, ça ne doit pas rester caché. Ça doit briller aux yeux du monde. Et nous avons commencé en septembre cette série de prédications pour tirer de la Bible comment concrètement nous pouvons les uns envers les autres manifester cet amour. Il y a eu déjà 4 messages. Le premier, c'était donc sur ce texte de Jean 13, aimez-vous les uns les autres. Le second, c'était prier les uns pour les autres. Le troisième, notre frère Peter nous avait conduit dans une réflexion sur le thème « Consolez-vous les uns les autres ». Et enfin, on a vu récemment avec Sylvain, le mois passé, « Vivez en paix les uns avec les autres ». Je vais insister sur le fait que ces thèmes ne sont que des commentaires pratiques de l'amour qu'on doit manifester les uns envers les autres. L'amour résume, se décline dans tout ça. Prier les uns pour les autres, se consoler, vivre en paix. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Estimez-vous mutuellement supérieurs » ou « Honorez-vous les uns les autres » ou considérez-vous les uns les autres plus excellents. Et le texte qui va nous conduire sur cette méditation est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, on lira les versets 2 à 11. Philippiens 2, verset 1 à 11, pardon. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Quelques mots du contexte de cette épître. L'apôtre Paul est en prison. Beaucoup de commentateurs estiment qu'il est en prison à Rome, peu importe le lieu. De cette prison, il reçoit des nouvelles de l'église de Philippe par Épaphrodite qui vient le voir et qui lui donne des nouvelles de cette église à Philippe. Et là, Paul est réjoui d'entendre des nouvelles plutôt bonnes de ces Philippiens qui persévèrent dans la foi. Et il y a donc dans cette lettre le thème de la joie, mais aussi par plusieurs versets où Paul insiste sur l'unité de l'Église. Eh bien, ça nous laisse deviner qu'il y a peut-être dans cette Église quelques divisions. Lisons donc Philippiens chapitre 2. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Je répète ce verset qui sera donc notre verset central d'aujourd'hui. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres plus importants que vous-même. Dans d'autres traductions, c'est marqué « considérez les autres plus excellents que vous-même ». Et que chacun regarde non ses propres intérêts ou ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen.
Voici donc comment l'apôtre Paul souhaite encourager ces Philippiens à retrouver davantage d'unité et à manifester les uns envers les autres ce commandement qu'on a lu dans l'évangile de Jean, aimez-vous les uns les autres. Mais plutôt que de commencer par des exhortations pratiques, quelle a été la démarche de Paul dans ce texte qu'on a lu? Il commence au verset 1 par leur poser une série de questions. Je relis ce verset 1. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Je pense que ça me fait penser à quelques prédications que j'ai entendues en Côte d'Ivoire. Quand on pose ce type de questions à l'Assemblée, eh bien, on attend à ce que l'Assemblée réponde « Amen ». Ce n'est pas des vraies questions, en fait. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? L'apôtre Paul pose cette série de questions d'abord pour interroger les Philippiens sur ce qu'ils ont trouvé dans l'évangile. La manière de te comporter avec ton frère et ta sœur dépend d'abord de ce que tu as compris et trouvé dans l'évangile. C'est ce que tu as trouvé en Jésus-Christ qui va canaliser, qui va orienter et qui va fonder ta relation avec ton frère et ta sœur en Christ. Aussi, il est important pour Paul de leur demander, mais au fait, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet évangile? Qu'est-ce que tu as trouvé en Jésus-Christ? As-tu trouvé en Christ un réconfort? Est-ce que tu as trouvé en Christ un réconfort pour toi? Il faut avoir compris l'évangile pour ça. L'évangile, vous le savez, pour celui qui l'a bien compris, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ commence par nous faire prendre conscience d'une bien mauvaise nouvelle. C'est que nous sommes pécheurs. C'est que nous sommes faibles. C'est que nous sommes perdus, promis à la mort et condamnés sans Jésus-Christ. Aussi, il faut avoir trouvé en Christ la consolation de celui dont l'âme était perdue autrefois, mais qui maintenant en Jésus-Christ a une espérance. Il faut déjà avoir compris ça et trouver dans ça un réconfort, ah, un soulagement. Ah Seigneur, merci. Il faut déjà avoir compris ça. J'étais faible et misérable, et comme on l'a chanté, un avocat a surgi auprès de Dieu pour défendre ma cause. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Avez-vous trouvé dans l'amour un encouragement? Dans l'amour de qui? Dans l'amour de Dieu. Manifesté à la croix de Golgotha, je ne peux que m'émerveiller de lire cette parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, moi y compris. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Moi qui devant Dieu ne valais rien, me voilà qu'il me dit qu'il m'aime tellement qu'il est prêt à donner sa vie pour moi. Et cet amour-là, en tout cas, il m'encourage. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime et cette personne m'aime d'une manière infinie. Ça m'encourage. Il faut avoir compris ça dans l'évangile. Avant de regarder ton frère et ta sœur, regarde à Jésus-Christ. Est-ce que tu as trouvé en lui ce réconfort et cet amour qui t'encourage? Et si c'est le cas, alors sache que tu es adopté par Dieu et que tu entres dans une relation filiale avec Dieu et que désormais tu peux l'appeler mon père. Mais sache qu'il n'est pas ton père à toi seul. Sache donc que tu intègres la famille de Jésus-Christ. Et cette famille, comme le dit, comme le suggère la question suivante, par l'esprit as-tu trouvé une communion? Et bien, cette famille-là est unie par l'esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu est unique et c'est le même pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Es-tu en communion avec Dieu par cet esprit? As-tu reçu l'esprit de Dieu? Eh bien, sache que tu n'es pas le seul et qu'autour de toi aussi sont rassemblés ceux qui ont reçu ce même esprit, ceux à qui Dieu a fait cette même grâce. Est-ce que cette consolation, ce réconfort, cet amour, cet esprit ont produit en toi l'affection et la bonté, la charité, la compassion, la tendresse? Si tu penses que Jésus-Christ ressent pour toi ces sentiments-là, de la tendresse, de la compassion, de l'affection, si tu le penses vraiment, alors tu dois aussi l'exprimer envers ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il est important pour Paul que les Philippiens répondent d'abord à ces questions-là, avant de les exhorter. Avez-vous compris cela dans l'Évangile? Un réconfort, l'amour infini, la communion par l'esprit, l'affection, la bonté. Avez-vous trouvé tout cela en Jésus-Christ? Avez-vous vraiment trouvé tout cela en Jésus-Christ? Alors, si oui, comme je l'espère, il continue donc verset 2, « Rendez donc ma joie complète. » Au verset 25 du chapitre 1, ou plutôt au verset 4 du chapitre 1, il disait « Je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. » Paul prie pour les Philippiens avec joie. Mais il veut que sa joie soit encore plus complète. « Rendez ma joie complète. » La joie de Paul sera complète s'il voit cette prière qu'il fait avec joie s'exaucer dans la manière dont les Philippiens vont vivre les uns avec les autres. Rendez ma joie complète. En faisant quoi? Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. En accord. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Paul encourage les Philippiens à vivre en accord. Vivre en accord ne veut pas dire qu'on n'a jamais de désaccord. Puisque au chapitre 3, à partir du verset 15 de la même épître, hein, Philippiens 3, il dit « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, oui, ça peut arriver, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Malgré ces petits points qui peuvent peut-être nous opposer, marchons ensemble vers le même but. » Et c'est ce qu'il détaille ici. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Amour, pensée, but, vivre en accord, tous ces mots expriment deux pensées. La première pensée, c'est ce qu'on ressent, ce que tu ressens comme sentiment. Ayez les mêmes sentiments, ressentez les mêmes choses, les mêmes affections. Et l'autre pensée, c'est ayez le même but, ayez les mêmes projets, les mêmes visions. Voyez la différence? Le sentiment, c'est ce que je ressens. Par exemple, j'ai de la douleur, j'ai de la joie dans le cœur, j'ai de la souffrance dans mon cœur. Ma pensée, mon projet, c'est ce que j'ai résolu dans mon cœur, ce que je veux faire pour atteindre un but. Voyez la différence? J'espère que c'est clair. Hein? Tout ça, c'est dans ma pensée, c'est dans mon être, mais c'est deux domaines différents. Ce que je ressens comme sentiment et ce que dans mon cœur, je résous de faire. Le but vers lequel je tends, ce que je veux produire. Paul exhorte les Philippiens à tendre vers les mêmes affections, les mêmes sentiments et à courir vers le même but. Mon grand frère Peter, tout à l'heure, parce qu'on est de la même famille, a utilisé l'image du bateau. Bateau dont Jésus-Christ est le capitaine. Tout l'équipage travaille au même but. Faire avancer le bateau. Tout l'équipage est aux ordres du seul commandant de bord, Jésus-Christ. Tendez à vivre en accord avec les mêmes affections. Tendez vers le même but, avec la même pensée, les mêmes sentiments. Verset 3, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. » qu'il n'y ait pas des clans, des partis qui reflètent un égoïsme. Parce que finalement, si je suis dans un clan, je suis dans le clan de ceux qui me ressemblent, qui me plaisent, qui pensent comme moi. Cela n'a pas sa place dans la famille de Jésus-Christ. Puisque nous suivons tous le même Seigneur, nous courons vers le même but et nous savons tous que nous sommes des pécheurs pardonnés, rachetés. Ne courons pas vers ce qu'il appelle des vaines gloires. C'est-à-dire des choses qui ne valent rien, c'est ça, hein? S'enfler d'orgueil devant Dieu, ça ne vaut rien. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Voyez l'opposition. Plutôt que de se croire important et de marcher sur les autres, cela est vain. Par contre, ce qui a du poids, c'est par humilité de considérer les autres plus importants que soi-même. J'aime bien la traduction, je crois que c'est dans la seconde. Ils mettent « considérer les autres plus excellents ». J'aime bien cette image parce que Dieu qui est très sage veut nous faire sous-entendre par là que nous sommes aussi importants. Il ne s'agit pas de dire l'autre est important parce que je ne vaux rien. Ah, ça, c'est pas biblique du tout. Il faut pas comprendre ça comme ça. Je suis important aussi aux yeux de Dieu. Ah, je vaux beaucoup pour celui qui a donné sa vie pour moi. Mais il m'invite à croire que l'autre est plus important encore. Et si on comprend ça d'une manière mathématique, alors là, c'est une absurdité. Mathématiquement, c'est absurde. Parce que on ne peut pas être supérieur l'un face à l'autre, vous voyez? Il y a un qui est supérieur, et donc de fait, l'autre est inférieur. Mais du point de vue de Dieu, ça marche. C'est une logique qui fonctionne très bien. Parce que je te considère comme excellent et tu me considères comme excellent. Amen. Et c'est une dynamique qui nous rend de plus en plus excellents. Et ça, j'insiste, je l'ai déjà dit lors d'une de mes prédications passées, ça fait partie d'une des logiques du royaume de Dieu. D'une des logiques de Dieu. Quand j'ai du pain, plus je partage mon pain, plus il me reste un petit bout. C'est sûr qu'au bout d'un moment, je n'ai plus trop envie de partager, puisqu'après, je n'aurai rien de fait. Si je partage tout mon pain, c'est bien, j'ai fait une bonne action, mais après, je n'ai plus rien. Donc, quand je partage, ma part diminue. Bon, dans ce qui est de la logique du royaume de Dieu, les choses qu'on partage, étrangement, qu'est-ce qu'elles font? Elles se multiplient et elles augmentent. C'est ça la logique de Dieu. On a vu le 31, la multiplication des pains. L'amour fraternel, quand il est réciproque, il augmente, on sème davantage. L'honneur qu'on a les uns avec les autres, quand il est réciproque, il augmente. Le respect que tu me donnes et que je te donne, il est encore meilleur quand il est réciproque. L'affection, la tendresse, la considération que je te donne, elle augmente encore plus quand tu me renvoies l'appareil. C'est ça la logique de Dieu. Considère l'autre comme plus excellent, plus important, et lui aussi gagnera à te considérer pareillement. Voyez, c'est des choses, c'est des messages qui paraissent être de bonne moralité, comme des leçons qu'on pourrait apprendre à l'instruction civique. Ah, il faut être poli, faut te lever dans le bus quand il y a des personnes âgées, c'est comme ça, ah oui. C'est bien, mais le chrétien doit faire ça en pensant à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné l'exemple. Et c'est pour ça que pour encourager encore plus les chrétiens de cette ville de Philippe à ne pas hésiter à se rabaisser s'il le faut pour mettre en valeur les autres, c'est pour cela qu'il donne l'exemple suprême qui ne peut que émouvoir le cœur du chrétien. Jésus-Christ lui-même n'a pas fait autrement. C'est ça qu'il dit dans ce cantique-là, du verset 6 au verset 11. On pourrait le commenter, là, vraiment, ce texte est tellement puissant, je ne vais pas me lancer dans ce commentaire, mais quand même, en retenir quelques mots-clés qui sont proches de notre thème, c'est que Jésus, comme il le dit, dès l'origine au verset 6, il était de condition divine. Ce n'est pas quelque chose qu'il a usurpé, c'était sa condition. Mais il ne chercha pas à profiter de cette égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il ne s'est pas contenté de se dépouiller. Verset 8, Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant. Il ne s'est pas contenté encore une fois de s'abaisser, mais il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort. Et il ne s'est pas contenté d'une mort glorieuse, mais d'une mort ignoble en mourant à la croix. Voyez un peu comment Paul fait, il descend de la condition divine, se dépouiller, s'abaisser, mourir sur la croix. Et bien après ça, il a été ressuscité et Dieu l'a élevé. Et là, Paul fait la démarche inverse. Il a élevé, verset 9, et lui a donné pas un simple nom, il a mis à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de ce Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. Voici l'exemple que nous donne notre Seigneur. Et s'il a fait, c'est pour que ceux qui confessent, qui déclarent que Jésus-Christ est Seigneur, participent aussi à la même gloire que lui. Paul dit ça pour encourager les Philippiens à ne pas hésiter, à se rabaisser s'il le faut, et à exprimer que le frère ou la sœur en Christ est bien plus important, bien plus importante que moi, et bien plus excellent. Je relis encore. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Il peut arriver, même dans l'Église, qu'on ne mette pas ce commandement en pratique. Il peut arriver que dans l'Église, certaines personnes arrivent à penser « je ne vaux rien » puisque personne ne m'écoute. Il peut arriver dans l'Église qu'on n'écoute pas les jeunes ou les enfants. Il peut arriver dans l'Église qu'on n'écoute pas les handicapés. Il peut arriver dans l'Église qu'on ne donne aucune considération aux personnes âgées en disant « bon là, hop, toi, ton époque est révolue ». Il peut arriver dans l'Église qu'on ne considère pas peut-être ceux qui sont intellectuellement moins équipés que nous. Mais cela ne devrait pas arriver dans l'Église. Parce que chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Et il y a dans les paroles de Jésus quelques paroles qui nous mettent en garde aussi. Jusque-là, c'est que des encouragements, des exhortations. Jésus donne aussi des mises en garde et même des menaces. Tu seras traité de la manière dont tu traiteras tes compagnons de service. Il y a de nombreuses paraboles de Jésus, vous voyez. En Matthieu 18, en donnant un enseignement sur le pardon, Jésus donne une parabole d'un serviteur qui va réclamer à son roi de vraiment d'effacer une dette et ce roi accepte. Ensuite, lui-même, se tournant vers un de ses créanciers, fait preuve de dureté. Que fait le roi après? Il le met en prison, comme lui-même avait mis en prison son créancier. Ça peut nous encourager aussi à soigner notre manière de nous comporter les uns envers les autres. Jésus dira attention à celui qui sera une occasion de chute pour n'importe lequel de ses petits-enfants, en montrant des enfants à ses disciples. C'est vrai qu'on a souvent tendance à ne pas trop écouter les enfants. Oh oui, mais allez jouer là-bas, allez, bon, oui. Oui, mais Jésus dit attention pour celui qui a une occasion de chute, pour n'importe lequel de ses enfants-là. Il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui attache une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Parce que cet enfant, aussi insignifiant que vous voyez, a un défenseur qui est le Tout-Puissant. La Bible donc nous encourage à suivre l'exemple de Christ et à nous tirer vers le haut et non pas à nous rabaisser les uns les autres. Alors, la question sur laquelle je voulais conclure aujourd'hui, c'est quand tu regardes ton frère ou ta sœur en Christ, qu'est-ce que tu vois? Ou qui tu vois? Quand tu regardes celui qui est assis ou celle qui est assise à droite, à gauche, devant ou derrière, qui tu vois? La manière dont tu vois cette personne dépend de la manière dont toi-même tu penses être vu par Jésus-Christ. Alors si tu penses qu'effectivement Jésus n'a pas d'attention pour toi, n'a pas de considération pour toi, alors je comprends que tu fasses pareil. Mais si jamais, comme Paul le souhaite ici et comme je le souhaite pour chacun d'entre nous, tu penses que Dieu t'aime malgré tes défauts, que Dieu te pardonne, que Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux, si c'est comme ça que tu penses que Jésus te voit, alors cela doit se manifester aussi dans ton regard, dans ton attitude, dans ton comportement envers ton frère et ta sœur. Quand tu regardes ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Amen. Amen.